de vous arrêter.
C'est cela.
Bien le bonjour les amis, c'est Tanchuli sur Dasson.
Et Croquette.
Pour enfin ce numéro 18, depuis au moins, si c'est pas plus, oui. On a enfin trouvé le temps de faire un numéro et tout. Voilà, voilà. Alors, eh bien, on va parler de quoi ?
D'un film, Dallas Buyers Club, que j'ai enfin vu.
D'accord. Et puis ?
D'un livre, donc Bora Bora Beaches.
Que j'ai enfin lu.
Non,
même pas. Et on va parler. Moi, je vais parler de trois trucs parce que tu sais, on avait dit numéro plus long et tout.
Moi, ah ouais. Trucs, ah mais je peux parler de plein de trucs. Hein.
Ah bon,
je,
voilà.
Je suis une déglingo.
Ouais, donc une surprise. Donc moi, je vais parler enfin de deux gros trucs. Enfin deux gros trucs. Je vais parler d'un jeu vidéo Kingdom of Amalur: Reckoning. Kingdom of Amalur, un jeu qui malheureusement n'a pas eu de suite, mais qui est bien quand même. Surtout que maintenant, vous devez trouver à vil prix, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vais parler de sport automobile avec la Formula E. Oh, mais qu'est-ce que donc que la Formule 1 ? Et je vais aussi un petit peu parler de mon appareil photo, le nouveau que j'ai, qu'on n'en ait pas parlé encore. Ouais, qui est plus si nouveau que ça, du coup, mais depuis le temps
que j'ai fait le podcast. À ton vieil appareil photo.
Mais voilà, donc, et puis du coup, tu vas parler d'un troisième truc en bonus.
Ouais, je sais pas.
Est-ce qu'on aura des news à la fin ?
Non.
Non, nous n'aurons donc pas de news, ça vous apprend. Voilà, et bah du coup, on va commencer par ton fifilm.
Ouais.
Non, tu m'avais dit non, c'est quoi ?
Si, bah, oui,
allez hop, le fifilm,
oui.
C'est parti, soyons fous. Et voilà donc, après ce nouveau et interminable jingle cinéma.
Ouais, il est trop long.
Voilà, mais il est bien.
Mais je te l'ai dit.
Oui,
mais tu m'écoutes jamais.
Mais... La preuve, je t'écoute. Vas-y, parle-nous de ton film.
Donc, Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le voir au ciné.
Non, c'est longtemps que j'ai pas vu Jean-Marc.
Ouais. Enfin, à sa sortie, en fait. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et donc en fait, c'est bon, je vais vous lire le pitch. Hein,
oui.
Mieux, hein. Donc 1986, Dallas au Texas, une histoire vraie. Ron Wood J'ai toujours un gros souci.
Ron Woodruff.
Voilà. À 35 ans,
le toit de bois,
des bottes, un Stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie, sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, on lui dit qu'il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d'autres malades en quête de guérison. Le Dallas Buyers Club est né. Mais son succès gêne. Ron doit s'engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour une nouvelle cause et pour sa propre vie. Ah. Voilà. Voilà, donc le pitch comme ça, il n'est pas super...
glamour.
Super glamour, mais il y a Jared Leto.
Et Matthew McConaughey.
Oui, mais j'avoue que Matthew McConaughey, c'est pas le... C'est pas un truc qui me fait... Ah, je vais aller voir un film. Ouais. Alors que Jared Leto un peu plus.
Oui, non. Non, moi, ni l'un ni l'autre, le Rosef. Hein.
Voilà, non, mais voilà. Et donc, en fait, ils ont d'ailleurs tous les deux eu l'Oscar, un Oscar aux Oscars.
Oui, pour les Oscarisés, quoi.
Ouais, mais je sais plus si... comment on compte les Oscars, si c'est ceux de 2013 ou c'est ceux de 2014.
Ah non, ceux de 2014, je pense.
2014. Bah,
ils ont eu un Oscar, quoi, le dernier coup.
Voilà, aux derniers Oscars, ils ont eu un Oscar.
Combien ? Donc, ils auraient eu un César au dernier Oscar, on s'est dit, bon, là, c'est magouillé, bon, c'est les... Bon, donc, ils ont eu un Oscar aux Oscars, c'est normal.
Voilà, donc Matthew McConaughey a eu celui du meilleur acteur, au grand désespoir de plein de personnes qui voulaient que ce soit Leonardo DiCaprio.
Mais c'est un peu le Pascal Obispo du...
Ouais, mais ce qui m'a un peu gêné, c'est que les gens, ils font, ah, ça fait plein de fois qu'il est nominé, il a jamais eu l'Oscar. Ouais, et alors, enfin...
Non, t'es obligé de l'avoir au bout de la 18e fois. Ne serait-ce qu'au mérite.
On te le donne au bout d'un moment par pitié.
C'est ça.
Et donc, Jared Leto a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Voilà, normal. Je devrais dire. Oui, je suis une grande fan de Jared Leto.
Oui, ouais. Non, mais vas-y, j'attends juste que tu... La suite ?
Oui, mais écoute... Donc, ça relate l'histoire donc, de Ron, qui est...
Woodruff.
Voilà. Qui est un gros cow-boy viril, super macho, voilà, qui vit de... il se drogue, il a des préjugés dégueulasses envers les gens.
Ouais, enfin, Texan, quoi.
Voilà, c'est un gros connard de Texan. Et en fait, il finit par apprendre qu'il est séropositif, donc qu'il a une grosse maladie de pédé, comme il dit, hein.
Et ceci est extrait du film.
Oui, oui, non, mais vraiment, en fait, voilà, pour lui, il n'y a que les homosexuels qui peuvent être séropositifs, en fait.
Ouais, rappelons qu'on est en 86.
Voilà.
Et au Texas.
Et au Texas, voilà. Alors qu'en fait, le gars, il n'arrête pas de se piquer, il sniffe le cul de n'importe qui, enfin bref. Voilà. Donc, et on lui dit qu'il lui reste 30 jours à vivre. Voilà, donc il n'est pas content.
Ouais, il me reste 30 jours à vivre. Pop, 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 pop.
Donc il est pas content.
Non, c'est non. Bizarrement, il le prend mal. Hein.
Ouais, bah oui, normal. Et en fait, donc il apprend que le corps médical américain préfère soigner les malades du SIDA avec un médicament qui est dangereux. Et donc il préfère recourir à des traitements alternatifs moins toxiques et qui sont pas autorisés par la FDA, qui est la American Food and Drug Administration. Donc, qui, à mon avis, fonctionne à base de gros pots de vin pour
dire... Ces propos n'engagent que toi.
Oui, oui. Non, mais ils le sous-entendent pas mal dans le truc, hein, comme quoi, ouais...
Oui, bizarrement, comme les labos n'ont pas payé, les trucs ne sont pas autorisés.
Mais c'est pas des labos, en fait. Les trucs qu'ils prennent, c'est vraiment des trucs...
Oui, oui, non, mais je veux dire, justement, vu que ça n'a pas été payé par des labos pour sponsoriser derrière, du coup, forcément, c'est pas trop autorisé.
Voilà.
Oui.
Tu vois. Et donc, avec l'aide de Rayon, donc joué par Jared Leto, un transsexuel rencontré lors de son court séjour à l'hôpital, il va rassembler d'autres malades en quête de guérison, et c'est ainsi que naîtra le Dallas Buyer Club. Donc,
d'accord.
En fait, du coup, il devient ami avec un mec avec qui il aurait jamais pu penser devenir
oui,
ami un jour.
Oui, mais ils ont la
fait.
Même maladie de PD tous les deux.
Voilà. Parce qu'en fait, entre-temps, bien sûr, Ron, ses amis apprennent qu'il est séropositif. Et du coup, comme c'est des Texans aussi, à la même pensée que lui, voilà quoi. Il lui jette des cailloux et tout, c'est des fous. Et donc, on peut penser qu'on va sombrer dans le pathos, mais en fait, non. On n'est pas là pour suivre le drame de la maladie... qui les amène vers la mort. On est là pour voir un homme qui se bat contre la maladie et surtout contre le système. Tu vois, le système de ces gros connards avec les potes et tout, voilà. Et on sombre pas dans le dramatique, en fait. C'est vraiment bien fichu. Et donc, on voit ce cow-boy clairement homophobe qui va peu à peu apprendre à devenir plus tolérant, à s'ouvrir au monde... à devenir moins con, moins texan, tout ça. Et j'ai trouvé ce film très émouvant et assez brillant, en fait, et notamment grâce aux performances des deux acteurs. Parce que en fait, ils sont excellents. Je suis pas sûre
s'ils mériteraient un Oscar.
Ouais, ils mériteraient un Oscar, vraiment. Je suis pas sûre si on avait mis quelqu'un d'autre, genre Leonardo DiCaprio, il aurait eu un Oscar. mais ouais, voilà, c'est... Même si le pitch est un peu un peu bizarre, franchement, je pense que c'est un film vraiment à voir parce qu'il est.
Oui, en plus du titre, moi, je pensais que c'était des trucs qui, genre des Texans qui achetaient des clubs de foot ou des trucs. Comme ça, <c'est pas>
D'accord.
Oui, bah, Buyers Club, je dis, ils achètent des clubs, quoi.
Non, ils achètent juste des traitements.
Il y a pas une pour le, il y a pas une fille connue, non. Enfin, je sais pas, pour deux trois images que j'ai vues quand tu le regardais.
Si, comment elle s'appelle, celle d'Alias.
Jennifer Garner, moi aussi.
Ou j'ai pas eu envie de la baffer parce que c'est une actrice que j'aime pas. Je l'aime pas et là j'ai pas eu envie de la baffer.
Il faut dire qu'elle s'en prend un petit peu plein la gueule non, pour les 5 minutes, non
Non, parce que. Non. Enfin, disons que. Elle est médecin, donc elle est là pour administrer.
Ah, d'accord. Non, mais je sais pas qu'elle était médecin.
le traitement
normal.
Voilà, le traitement normal qui est nocif. Et donc, elle fait juste son travail, en fait. Mais elle aussi, elle va évoluer, elle va plus aller dans...
Dans le sens qu'en fait, elle fait de la merde.
Voilà.
D'accord.
Où elle va comprendre que, ouais, peut-être, effectivement, il y a peut-être un truc qui va pas et tout, quoi.
Voilà. Ok.
Voilà.
Donc, en fait, s'il sait bien, il faut le regarder.
Voilà.
Ne serait-ce que parce qu'il y a Jared Leto.
Ouais. Donc, je sais pas s'il passe encore au ciné, vu que ça fait super longtemps qu'on n'a pas enregistré, mais...
Ouais, il y a peut-être une sortie DVD, un truc.
Ouais, mais je crois que c'est en juin. Il doit sortir D'accord. en juin en DVD. Mais voilà. Il est vraiment bien.
Ok. Et non, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas un bouquin là-bas, un truc, non, on n'a pas, on
sait
pas.
Non, c'est juste une
histoire.
Enfin, peut-être, mais je sais que c'est une histoire vraie,
originale.
En fait. C'est une histoire vraie, ouais.
D'accord. Et ben, on va passer à la suite. Tiens, allez, parlons de jeux vidéo. Eh oui, grâce à la magie de GarageBand, je n'ai pas entendu la fin du jingle, qui est toujours l'ancien, vous l'aurez noté, mais il est bien, alors on va le garder celui-là. J'ai décidé que. Voilà. Donc, comme prévu, je vais vous parler de Reconning les Royaumes d'Abalur. Alors, pourquoi un sous-titre déjà ? Parce que normalement, il devait y avoir plusieurs épisodes et tout. Le problème, je vous le dis tout de suite, c'est que le studio qui est en fait 38 studios, donc ça doit être, je ne sais pas comment, 38, 38 studios, en fait, ils ont coulé, ils n'ont pas pu faire la suite. Voilà, mais ce premier épisode peut se suffire à lui-même, même si, bon...
Premier et dernier,
moyen, oui, mais il y avait moyen de... Il le vivait comme un premier épisode, d'où le côté Reconning. Reconning, c'est le... Comment dire, c'est le, la reconnaissance, en fait, tu vois. Reconning, c'est quand tu vas en reconnaissance d'un truc. Pas la reconnaissance, tu remercies. Voilà. Donc, eh bien...
Bah, maintenant, si.
Voilà. Donc, eh ben, en fait, il y a eu toute une histoire, parce qu'en fait, je crois que le studio avait été racheté par l'État du New Jersey. Bon, déjà, ça... Faire acheter par l'État du New Jersey, c'est la loose, quoi. Et en fait,
donc,
ils ont fermé le truc, voilà, ça a coulé, mais du coup, on n'a pas les suites. Et je crois que c'est dommage, parce que l'univers était intéressant, ils avaient prévu de faire un MMO dessus. Et en fait, je crois pas de MMO non plus dessus. Mais tant toujours mieux. Est-il... Pourquoi, tant mieux.
Ah bah, comme ça, tu joueras pas.
Oui, bah, il y a plein de MMO que je suis censé faire, que je fais pas, en fait. Heureusement, d'ailleurs, tu vas me dire, mais... Donc, en fait, les royaumes d'Amalur, Reconning, ou Kingdom of Amalur, 2. Reconning, hein, si on prend le titre original, est un jeu vidéo, ça tombe bien, du genre RPG, je dirais plus action RPG, hein, je vous expliquerai pourquoi après, qui est sorti sur PlayStation 3, sur PC, sur Xbox 360, donc développé par 38 Studio and Big Huge Game, édité par Electronic Arts, voilà, et qui est sorti en 2012, je l'ai déjà dit en fait. Donc, en fait, de quoi qu'est-ce que c'est que ça parle? Eh bien, avant de vous dire de quoi ça parle, je vais vous dire qu'il y a quand même 2-3 noms assez sympas qui ont bossé dessus. Alors, Ken Rolston, hein, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un gars qui a travaillé, en fait, en tant que lead designer et qui avait aussi bossé sur Elder Scrolls 3 et 4, c'est-à-dire Morrowind et Oblivion. Et il y a aussi qui a fait les images, en fait, la charte graphique, dessiné les personnages et tout. C'est Todd McFarlane, qui n'est autre que le créateur de Spawn. Voilà, donc comics, tout ça. Et il est vrai que je dirais l'identité graphique du jeu est assez sympa. Voilà, pas toujours un petit peu à mon goût, surtout pour la classe des guerriers qui vont bien avec leur armure finale qui est un petit peu toute moche, je trouve, par rapport aux autres. Mais sinon, c'est pas mal. Donc c'est un petit peu un action RPG, donc je vais vous faire le petit pitch qui n'est pas marqué dans la fiche Wikipédia, mais comme j'y ai à peu près joué 4 ou 5 fois d'affilée, je sais de quoi ça parle, enfin pas d'affilée, mais j'ai fait 4 ou 5 runs dessus, avec à peu près toutes les compétences, personnages possibles et tout. En fait, ça, c'est intéressant parce que ça commence par la mort du personnage.
Ah, c'est bien ça.
En fait, vous créez votre personnage suivant 4 races que je vous décrirai après. Et en fait, vous êtes acheminé sur un chariot avant d'être jeté à la fosse commune, la suite d'une expérience qui n'a apparemment pas réussi. Le problème, c'est qu'en fait, vous vous réveillez sur un tas de cadavres des à peu près 100 ou 300 autres types qui sont passés avant vous. Sauf que vous, un petit peu à retardement, mais l'expérience a marché et vous n'êtes plus mort. Voilà, donc, parce que à la base, vous avez été buté. Le problème, c'est que vous êtes amnésique. Ah non, vous êtes plus mort, genre plus mort revivant, quoi, pas un zombie, mais en plus vous êtes un petit peu amnésique, donc vous savez pas ni trop qui vous êtes, ni pourquoi vous êtes mort, tout ça. Et manque de bol, Vlatipa, que vous arrivez en plus de vous ressusciter en plein moment qu'il faut pas, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de guerre en fait entre entre une faction d'elfes venue du... Enfin, ben, d'elfes, oui, de Faé, on va dire. Ils sont un petit peu comme des elfes, mais bon, enfin, ou pas trop. De Faé, donc une race immortelle, mais normalement un petit peu pacifique, qui sont venus du, de l'Est, voilà. Et qui, ben, attaquent, en gros, le royaume de, ou le continent de l'Est, voilà. Et en fait, ils sont en train d'attaquer, d'attaquer le point où vous ressuscitez, en fait le laboratoire où vous ressuscitez, et qui font péter la machine qui a permis de vous ressusciter. Donc de base, eh ben, vous serez le seul dans ce cas-là, vu qu'ils ont tout cassé. Donc vous apprenez aussi, en fait, petit à petit, au fil du tutoriel et de vos premiers pas dans l'univers d'Amalo, que, eh bien, normalement, chaque personnage a un destin bien défini. Il y a même une classe de personnages qui s'appelle les tisseurs du destin, qui justement voient les trames du destin et savent que ce à quoi vous êtes destiné, c'est-à-dire que de toute façon, vous allez mourir comme ça ce jour-ci, il va vous arriver ci et ça. Ce qui est un petit peu justement la malédiction des tisseurs du destin, c'est qu'ils voient aussi leur propre mort, donc ils savent qu'ils vont crever à telle heure, tel jour, machin, de telle façon. Le problème, c'est que vous, vous êtes mort, mais vous êtes rené, et c'était absolument pas prévu. Du coup, vous échappez un petit peu au destin, et c'est un petit peu la merde, parce que d'habitude, tout est prévu, quadrillé, voilà, justement, bien tissé entre soi, et vous débourquez un petit peu dans un jeu de quilles, où justement, vous avez plus ou moins la capacité de faire échapper par vos actes, faire échapper les autres au destin qu'il aurait prévu, en tout cas, un petit peu chambouler les trames du destin, parce que justement, vous n'êtes plus assujetti à ces mêmes trames. Donc ça, c'est vraiment le truc de base, je dirais. Donc je vais pas vous dévoiler le pourquoi du comment. Bien sûr, on l'apprend à la fin du jeu, du pourquoi vous avez cette compétence-là. Parce qu'au début, c'est juste un fait. Voilà, c'est comme ça, on sait pas pourquoi et tout. Mais en tout cas, vous êtes spécial. En plus d'être René. Voilà, même si les deux sont liés. Alors du coup, vous pouvez incarner quoi comme personnage? Eh bien, il y a quatre races jouables, qui sont les Almains, qui sont des en gros des humains plus axés sur la chimie, l'armurerie, plus des guerriers, en fait. Les Varani, qui sont d'autres humains, qui sont plus on va dire des commerçants, en fait. Voilà. Donc il y a aussi les Dokalfar, qui sont, on pourrait dire, des pour ceux qui connaissent Skyrim, c'est un petit peu le penchant des elfes noirs, en fait. Donc c'est avec des grandes oreilles et tout, mais tout en étant une race de mortels, hein. Les quatre races jouables sont des races de mortels. Et les Yozalfar, qui sont plus des elfes qui ont une affinité avec la magie, tandis que les Dokalfar, c'est plus avec la furtivité. Voilà, sachant que comme dans tout RPG, suivant la race que vous choisissez, vous avez des bonus ratios. Par exemple, pour les Dokalfar, justement, vous avez plus 1 en artisanage, en plus 2 en furtivité, et plus 1 en persuasion. Donc je reviendrai sur les classes et les compétences après. Mais il y a aussi des races non jouables, et celles qui font un petit peu tout le sel du et le background de cet univers, c'est-à-dire que en plus de ces quatre races mortelles, il y a les Faé, qui sont des êtres immortels, en fait, à la mythologie, à la cosmologie assez complexe, hein, parce que après avoir fait 4 ou 5, j'ai toujours pas tout compris, en fait, de comment ça marche, mais qui, il y a deux grandes races, en fait. Il y a les Faé de l'été, qui sont plus sur le côté saison, renouveau, voilà, la vie, en fait, qui marche par cycle, c'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont eux aussi, malgré qu'ils soient immortels, assujettis au destin, normalement, ben, même s'ils meurent, ils savent qu'ils vont ressusciter, et en fait, leur âme, plus ou moins, changerait de corps. Alors, on sait pas si c'est le même corps ou si c'est un autre corps, mais. Voilà, leur énergie, en fait, ils renaîtraient dans un autre corps, ils recommenceraient un petit peu un cycle sans fin. Voilà, d'accord. Et il y a...
C'est chiant, au bout d'un moment, quand même.
Oui, mais bon, comme ils sont immortels, enfin, d'un autre côté. Et il y a, de l'autre côté, les failles d'hiver, qui sont le pendant plus sur la putréfaction, la mort et tout, mais bon, il faut la mort, il faut qu'il y ait le renouveau, voilà, c'est un petit peu le... Pas forcément, comme ils le disent au moment dans le jeu, le penchant négatif, parce qu'ils sont, bon, ils sont liés à la mort, c'est peut-être pas top, mais plutôt le penchant, je dirais, plus obscur, tu vois. Genre, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort et tout, tu vois. Tout est lié, voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, les failles d'hiver qui sont censées être pacifiques, et ben le haut roi a été buté, en gros, par son, on va dire, par le fou de l'époque, enfin le fou, son bras droit, son conseiller, son chambellan qui aussi qui faisait un petit peu le fou de la cour. Ouais, en gros, voilà. Parce que lui, eh bien, au lieu de vouloir justement continuer ce cycle de destin interminable et se plier au cycle, justement, ils appellent ça le cycle. Eh ben, il a plus ou moins été séduit, endoctriné et par une autre déesse, une autre entité, hein, je vais pas trop spoiler non plus, qui lui a donné plein de pouvoirs et qui lui a permis, entre autres, eh bien, de buter le roi de l'hiver. Et du coup, eh bien, tous les faillis qu'il a de l'hiver qui ont été à sa suite, qu'il a endoctriné, qu'il a fait « Allez, venez me rejoindre, regardez, c'est moi qui ai la puissance et tout, la preuve, j'ai buté le chef d'avant. » Voilà, et qui ne résiste pas et qui disent « Voilà, on va le suivre et tout. » Ce nom, du coup, des... j'ai perdu le nom, pourtant c'est pas faute de l'avoir fait. Sont des... je ne sais pas... j'arrive pas à retrouver le nom. Bravo. Des Touatins, ça y est, hop, j'ai retrouvé, même, tu vois, même sans regarder dans la fiche Wikipédia. En fait, eh ben, il a lancé l'armée des Touatins contre les royaumes humains et des faillés de l'été, hop, pour eh ben, imposer, en gros, le culte de sa déesse à lui, partout. Voilà. Donc, ben, les faillés de l'été, ça les embête un peu, parce que, un, ils sont en train un peu de se faire décimer, puis deux, ça remet en cause toutes leurs croyances, voilà. Et la stabilité, parce qu'ils s'en font sur la stabilité, vu que ça tourne en boucle et tout, et lui, il vient un petit peu foutre la mienne. Et en plus, ben, vous, forcément, comme vous êtes le seul, je dirais, opposant qui n'est pas dans ce cycle de stabilité et tout, comme un peu comme les Touatas, vous les gênez un peu, parce que, en gros, oui, en gros, vous êtes sur le même, je dirais, sur le même schéma que de chien dans chien de qui, mais dans le camp opposé, en fait. Voilà, tu vois ?
Non, je vois pas, je comprends rien.
Mais si, c'est facile. En gros, il y a les failles d'hiver qui, normalement, sont comme les failles d'été dans un cycle de renouveau, tout ça. Et seulement, en gros, le bras droit du truc, il est endoctriné par une ODS qui lui dit « Hop, tout ça, c'est de la merde. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Pop, hop, hop, c'est le machin. » Du coup, il bute le roi des failles d'hiver.
Oui, non, mais voilà. Ça, j'avais compris.
Hop,
mais
oui, c'est quoi ? C'est où que je t'ai perdu ?
Partout.
D'accord, bon, je vais continuer quand même.
Oui, non, continue.
Voilà, et donc du coup, eh bien, vous êtes emmené à naviguer dans ce monde-là pour essayer de trouver votre place et de comprendre pourquoi vous êtes mort, éventuellement de mettre un cran d'arrêt à sa guerre qui ravage le monde, parce que le problème, c'est que les faillis, tout faillis qu'ils sont, ils sont quand même encore immortels, c'est-à-dire que quand vous le butez, il revient 10 minutes après sur le champ de bataille en disant « Ouais, je suis plus mort, et hop, j'y retourne ». Donc se combattre comme une armée immortelle, c'est un petit peu relou pour des mortels. Donc le but du jeu, en gros, vous avez deux buts principaux, c'est découvrir pourquoi vous êtes mort et quoi qu'est-ce que c'est, et à deux, mettre fin à la guerre en tuant le grand méchant. Jusque-là, rien que très normal. Donc du coup, pour faire ceci, vous avez des compétences, à la fois des compétences, des capacités, des destinées. En gros, les compétences... pour faire le parallèle avec Skyrim un peu, c'est qu'à chaque fois que vous montez de niveau, vous avez 3 points de compétence, ouais, 3 je crois, à upgrader. Donc vous pouvez upgrader 5 compétences qui sont le marchandage qui permet d'avoir des prix réduits, de vendre des trucs plus chers. La furtivité, si vous voulez faire un espèce d'assassin, voleur, booster votre furtivité. L'art de sage, qui est en fait un petit peu ce qui vous permet de faire des pierres. Il y a des cristaux qu'on récolte dans le jeu, on peut les assembler entre eux pour faire des pierres de plus ou moins bonne qualité suivant le niveau qu'on a en art de sage, et ça permet d'équiper les armures, et du coup d'avoir des bonus sur les armures. La persuasion, pour persuader, c'est un petit peu comme l'éloquence dans Skyrim. La dissipation...
Pour se dissipider.
Non, la dissipation, en fait, c'est comme c'est un petit peu comme le crochetage qu'il y a aussi, en fait, sauf que le crochetage, c'est pour ouvrir des coffres qui sont protégés par des serrures. Et la dissipation, c'est pour pouvoir ouvrir des coffres qui sont protégés par des sorts magiques. En fait. Quoi ?
Non, rien.
Oui, j'ai pas relevé ta blague, mais.
Non, j'avais pas compris crochetage, en fait.
D'accord.
Ça faisait un truc genre stache-tache.
Voilà. Sachant que ce qui est un petit peu embêtant, entre guillemets, c'est que le crochetage. C'est-à-dire quand vous le ratez, vous perdez un crochet, un peu encore une fois comme dans Skyrim, il n'y a pas de conséquence, tandis que la dissipation, si vous la ratez, le sort vous pète plus ou moins la gueule et ça peut être plus ou moins embêtant. Voilà. Vous avez aussi l'observation qui permet de découvrir des objets cachés, de récolter plus d'or dans l'environnement, découvrir des portes cachées à certains endroits. Et l'armurerie, en gros, c'est un petit peu la forge, voilà, et la chimie pour faire des potions. Voilà, il n'y a pas de grande, je dirais, nouveauté là-dessus, mais bon, ça reste du classique, mais efficace. Et vous avez aussi des points de compétence qui vous permet bien d'avoir ce qu'on a, d'avoir un petit peu des capacités actives. Hein. Autant là, c'est des capacités passives, autant là, vous pouvez avoir des capacités actives suivant la classe de personnage que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous avez en gros finesse qui correspond à tout ce qui est assassin, voleur. Sorcellerie pour la magie et puissance pour tout ce qui est guerrier, voilà, tank, berserker, un truc dans le genre. Et vous pouvez, suivant ces 3 arbres de compétences, attribuer des points pour upgrader vos compétences actives, voilà. Et vous avez aussi les destinées, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un certain nombre de points de capacité attribués dans ces 3 arbres-là, vous avez ce qu'on appelle des destinées, c'est-à-dire que, voilà, encore une fois, on rejoint le background avec les gens qui sont destinés à faire des trucs. qui vous attribue des bonus en plus. C'est-à-dire que si vous, alors je sais plus les noms exactement des destinées, mais par exemple, si vous êtes, si vous boostez par exemple en la finesse à fond, vous avez en gros l'âme noire, je crois, qui est le plus gros en fait, qui vous donne des capacités, ouais. En fonction des points, ça vous donne, je dirais, plus d'étranges de capacités qu'ils appellent des destinées, et vous pouvez les upgrader. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien remplir plusieurs arbres de compétences en même temps, c'est-à-dire vous pouvez à la fois alterner et finesse et puissance, faire finesse et puissance en même temps, ou finesse et sorcellerie, ou sorcellerie et puissance, ou même les trois en même temps pour faire ce qu'ils appellent un polypath, je crois. Matt, qui en gros un petit peu, il excelle dans rien, mais il est un petit peu bon à tout. Voilà, éventuellement. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas rater un personnage dans justement Kingdom of Amalur, parce que quand vous allez justement voir les fameux tisseurs du destin, ils peuvent en gros réinitialiser votre destin, c'est-à-dire que vous récupérez tous les points de compétence que vous avez mis. Tous les points de compétence et tous les points de capacité, et vous pouvez être même si vous êtes au milieu, au trois quarts ou quasiment à la fin du jeu, refaire un personnage à partir de zéro en lui rétablissant tous les points de compétence et capacité dans d'autres. Non, ça permet de. Après, c'est vrai que, à part quand on dit tiens, il y a un point que j'aurais peut-être mis là et j'aurais peut-être dû enlever là. On peut l'enlever. Je sais que moi je le fais des fois au début parce qu'il y a des points qui sont attribués d'office suivant les races que tu veux et qui te servent pas. Donc tu réinitialises de zéro et après tu gagnes deux points de compétences que tu places à certains endroits. Mais après c'est vrai qu'à la fin du jeu je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Ce qui est intéressant aussi c'est que par rapport à Skyrim, les combats, du coup le côté un petit peu action RPG sont vachement plus dynamiques. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est pas en first person, mais c'est en third person, c'est-à-dire qu'on voit son personnage, et on voit pas à travers les yeux du personnage. Mmh. Et en plus, eh ben, du coup, les combats sont plus de type un petit peu comme un Zelda, en fait, pour dire. C'est-à-dire qu'on peut esquiver, on peut se battre avec deux armes à la fois, on n'est pas obligé de switcher dans les menus, on a un bouton pour une arme et un bouton pour l'autre. Donc on a deux armes en permanence avec soi et on peut du coup esquiver, parer, voilà, faire ce genre de choses, ce qui rend les combats beaucoup plus dynamiques que dans Skyrim. Et au niveau du design, donc c'est assez sympa, assez comics. Il y a des trucs qui sont pas mal. À part bon les armures de Prismere, vous verrez si vous y jouez, que je trouve pas forcément trop bien jolies, mais sinon c'est bien cool. Les effets de magie sont assez classe aussi, et puis c'est pas mal, par contre, contrairement à Skyrim, il y a pas mal de couleurs. Je sais pas si tu vois, quand tu les joues, c'est quand même assez flashy au niveau des couleurs, un peu à la Warcraft. Il y a des couleurs un petit peu, voilà. Autant Skyrim, c'est un petit peu, bon, faut dire bord de ciel, il neige tout le temps et c'est l'hiver, mais autant c'est un petit peu gris, c'est pas super connu par ses couleurs, autant là c'est un peu plus flashy au niveau des couleurs. Voilà. Sinon que dire, ben j'ai pas parlé des factions, mais on a les factions habituelles, les quêtes de guildes habituelles qu'on peut, alors certains pro RPG pur et dur crieront au scandale, mais avec un même perso on peut toutes les faire, un peu comme ce qu'il y a dans Skyrim, c'est qu'on a beau être un voleur, on peut faire par exemple la quête des compagnons dans Skyrim qui sont normalement des gros bourrins de base, voilà, c'est un petit peu pareil, c'est à dire on peut être la Scholy Arcana qui est un petit peu l'école de magie, pour reprendre, on va dire en fort le parallèle avec Skyrim, pour ce qui est un petit peu la guilde des mages de Fort d'Hiver, en gros, on peut le faire, et encore une fois, en étant un sorcier ou un gros bourrin qui a aucune affinité avec la magie, on peut se retrouver boss de la Scholy Arcana, comme ça. Donc, il y a bien sûr, donc, la guilde de la magie, il y a, la guilde des plus ou moins voleurs qu'on pourrait appeler la guilde des pérégrins, et il y a un peu plus de guildes bizarrement qui sont axées sur le côté chevalier, on va dire un petit peu, qui sont les guildes attribuées aux maisons faées, qui sont la maison des balades, les engagés encore plus, les engagés c'est un petit peu vraiment le pendant des compagnons dans Skyrim, et la maison des chagrins et la maison du courage. Voilà. Donc je voulais, c'est vrai que l'univers et le background, c'est dommage, je prêtais bien une suite parce que c'est assez dense, assez touffu, assez complexe d'ailleurs, ça aurait mérité des fois des suites.
Assez touffu.
Oui, touffu, il y a plein de trucs. Quoi?
Je sais pas, c'est pas le genre de mot que j'aurais employé pour un jeu vidéo, mais soit.
Ben oui, il y a pas mal de suites, il y en a quelques-uns qui auraient pu avoir des explications dans des épisodes supplémentaires, mais il y avait vraiment... une bible qui était riche, voilà, au niveau du jeu, ça aurait pu être exploité de façon... d'autres façons dans d'autres jeux, voilà. Il y avait vraiment matière à, comme on dit. Voilà, donc vous, je pense que normalement, étant donné qu'il n'a pas eu suite et que du coup, il a un petit peu déjà passé inaperçu, en tout cas, ceux qui l'ont fait généralement ont bien aimé, mais je pense que pas beaucoup de gens y ont joué. Vous devez sûrement le trouver à vil prix quelque part, soit d'occasion, dans le machin. En tout cas, à essayer, voilà, je vous le conseille. On va passer à la suite, du coup, ton livre. Enfin, le livre, la présentation du livre. Attention, générique livre.
Donc, le pitch. Au final, voilà.
Et donc, le nouveau jingle lecture.
C'est quoi ce jingle ?
Si, je t'avais fait écouter, tu m'as dit, ouais, j'aime pas. Je t'ai fait, ouais, non, mais il est cool, on garde.
Ouais, voilà. Je supporte pas d'entendre ma voix, en fait.
Mais tu l'écoutes pas, c'est les gens qui l'entendent.
Ben, je viens de l'entendre.
Oui, mais on apprend au montage. Tu ne l'entendras pas au montage. Il n'y a que les gens qui l'écoutent qui l'entendent.
C'est ça.
Donc, le pitch.
Oui, bah, 2 minutes, eh oh. Ça va bien. Donc, déjà, on va peut-être te rappeler de quoi je parle.
Oui.
Non, parce que le pitch, si tu dis balance un pitch comme ça et qu'on ne sait pas de quoi c'est, peut-être qu'il y a des gens qui nous prennent en cours de route, là.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne vous félicite pas, les gens. Donc, pour les gens qui seraient fans que toi, qui n'écouteraient que de tes parties, qui auraient zappé l'intro.
Parce qu'ils adorent ma voix, eux, et voilà.
Exactement. Et qui, eux, apprécient le nouveau jingle.
Moi, je préférais l'autre.
Oui, mais l'autre, il faisait téléphone rose ou je sais pas quoi.
Ben oui, justement, c'est pour ça que j'aimais bien. Donc, je vais vous parler de Bora Bora's Beaches, de Jacinthe Nitouche. Oui, c'est le nom de l'auteur, Jacinthe.
Jeune mot.
Donc, qui est édité par, une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Eddie Beach, qui publie des livres où les héroïnes ou certains personnages sont...
des bitches.
Oui, mais pas... Voilà, toi tu fais le truc genre, ouais, c'est des salopes, machin,
Ah non, je dis bitches voilà, parce que c'était dans le titre et dans le truc.
Faut le prendre...
Ah, moi je prends personne, hein, je veux pas d'emmerde.
Faut le prendre au sens large du.
Des garces.
Du plus. Terme, voilà. Parce que quand je parle d'Eddie Beach, c'est vrai que les gens ont tendance à dire ouais, ah, c'est encore un truc de cul.
Il
y a un truc de cul, voilà. Et en fait, non. Non, pas du tout, parce que j'ai. Bon,
vous pouvez donc zapper cette rubrique.
Pourquoi ?
Ben non, il n'y a pas de cul et tout. Oui.
Mais il n'y a pas de cul, par exemple, comme dans cette merde de 50 nuances degrés.
Mais il n'y a pas de sexe non plus dans 50 nuances degrés.
Mais si, c'est érotique.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Voilà, y a, c'est plus...
Oui, en tout cas, c'est moins, quoi.
Sous-entendu.
Oui.
Même si là, en l'occurrence, Jacinthe Nitouche a un parler assez...
cru.
Assez cru, voilà. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire le pitch pour s'en rendre compte. Donc, salut les culs, moi c'est Jacinthe Nitouche, Jaja pour les intimes. Que dire à part que je vis, ou plus exactement, j'essaie de survivre avec 3 filles plus cinglées les unes que les autres, Petra Vente de Pute, Jeanne Moreau et Philispine, dans un endroit que nous avons rêveusement surnommé Bora Bora. Oui, sur le papier ça peut envoyer de la bûchette, mais dites-vous que dans la vie c'est pire. Pour épicer le tout, un mâle de nature indéterminée et qui a le don de me mettre le téton en érection et la vulve au courbouillon est apparu subitement sur notre palier. Vous allez donc suivre une année de notre merveilleux quotidien et j'ai envie de dire, mais quel quotidien ? Quoi ? C'est moi qui raconte ? Je ne vais pas vous dire que notre quotidien est aussi mou que le périnée de... Je suis morte de rire. Le périnée de Mamie Nova.
Quoique le périnée de Mamie Nova est peut-être périmé, mais...
Ce qui ne serait pas crédible. Voilà, alors, après, j'ai envie de dire qu'il ne vous reste plus qu'à mélanger tout ça dans un shaker, de verser le tout dans un joli verre à cocktail avec une paille et de le déguster amoureusement. Voilà, donc rien que le pitch donne un peu le...
Le ton.
Le ton et le franc-parler donc, de Jacinthe Nitouche qui, en fait...
Ne s'appelle pas comme ça.
Et le nom de l'auteur, mais aussi le nom du personnage principal du...
Oui, parce qu'elle dit « je », donc c'est
voilà.
Un petit peu... Ça se veut autobiographique, même si peut-être que pas en fait, mais bon, on s'en fout, c'est le truc qui veut ça.
Voilà, donc je l'avoue, j'ai adoré vivre en colocation avec ces grandes folles.
C'est donc là que tu étais partie.
Oui, ben oui, tu savais pas. Non, mais en fait, tu lis le livre et t'es dedans, en fait, et t'es avec...
Oui, ça prouve que c'est bien,
voilà.
Déjà, de base.
Donc en fait, je me demandais si elles existaient et quelle était leur adresse, parce que bon, Moi, j'avais juste envie d'aller leur claquer une bille, tellement j'ai passé. Non, je veux pas aller vivre avec
mais
elle.
J'ai rien dit, moi. Je dis juste que t'es une grande malade, c'est tout. Je dis pas le con.
Pourquoi ?
Non, rien, c'est ça.
Mais parce que c'est.
C'est trop des copines de moi maintenant.
Mais en fait, le livre est tellement drôle que t'as juste envie d'être leur amie, en fait. Je n'ai pas d'amis, je veux être amie avec les.
Avec des personnages d'un livre. Non, mais c'est jouable. Hein.
C'est vrai que dit comme ça, c'est.
Il n'y a pas de souci, hein. On accepte tout le monde ici.
Pardon. J'ai mis pas mal de temps à lire le livre, mais pas parce qu'il est chiant, juste parce qu'il est long. Il est long et c'est cool en fait, parce que plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit.
Oui, non mais.
D'ailleurs, quelque part, j'aurais même aimé qu'il soit un peu plus long, histoire d'en profiter un peu plus en fait, parce que c'était vraiment très drôle.
Et quand on aime, on ne compte pas.
Voilà, mais je me console en me disant qu'en fait, il y a un Bora Bora Beaches 2 de prévu.
Oh, le retour.
Ouais, parce qu'à la fin du truc, il y a un petit extrait et tout, un petit teasing de folie. Et donc, voilà. Donc, je suis contente.
Oui.
Mais arrête de me regarder comme si
mais
j'étais...
Mais je regarde pas, j'attends la suite.
Comme si j'étais une barge ou je sais pas quoi.
Excuse-moi de m'intéresser.
Donc, le livre est raconté par le personnage de Jacinthe. C'est
Nitouche.
Voilà. Et à trois chapitres près, ou six, je sais plus, où il y a des autres qui prennent.
Oui, il y a les deux autres colocs qui racontent.
Voilà, il y a certains chapitres qui sont racontés par les yeux des autres colocs, mais très peu en fait, genre 5 ou 6, pas plus. Et donc, Jaja, donc, elle y va. Pas de main morte niveau langage, c'est souvent assez cru et carrément vulgaire en fait. Donc si vous n'aimez pas ce genre de...
Si vous n'avez pas aimé le pitch, c'est mort.
Voilà, par exemple. Et donc ça surprend un peu au début, mais en fait une fois qu'on est dedans, en fait ça va avec le personnage en fait, tu vois, enfin... Genre elle parle comme ça, tu vois, c'est...
Oui, ça correspond au personnage.
Voilà.
Il y a une certaine cohérence.
J'ai adoré les références... Donc, musical déjà. Donc, il y a pas mal de références, genre musical assez sympa. Même
c'est
si,
à dire, parce que là, tout le monde attendait des exemples.
Même si La Rousseau, pour moi, c'est de la soupe et pas de la musique. Hein.
Oui, mais ça reste une référence.
Voilà.
Une référence à un...
Donc, il y a. Deux têtes, je ne sais plus. Donc, je me rappelle juste de La Rousseau, mais sinon, ouais, il y a du. Je crois qu'il y a du
Simone. Ah, bah
voilà.
On l'a
des exemples. Voilà. Plein de trucs sympas à part La Rousseau. Et pas mal de références aussi télévisuelles, en fait. Genre les séries, certains films. Et donc, moi, dès qu'on parle Téloche, voilà, quoi. Y a d'ailleurs un super passage sur True Blood, où, en fait, Jaja pète les genoux à cette gourdasse de Suki. Donc, autant dire que j'ai adoré. Donc un petit extrait. Donc elle est juste à vomir toutes ses tripes pendant 6 mois et on continue. On a juste envie de lui mettre une rafale de phalanges dans sa gueule et qu'elle crève pendant tout l'épisode.
Ça me rappelle quelqu'un.
Et c'est tellement ça et c'est tellement ce que je pense que je me suis tellement reconnue dans ce passage. Je déteste Suki dans True Blood. C'est vrai, j'ai juste envie qu'elle crève. Mais à chaque seconde, j'ai juste envie que quelqu'un lui arrache la tête avec les dents et. Ah, du coup, ça m'a rassurée et réconfortée de voir que d'autres personnes que moi le pensaient. Je me suis sentie moins seule. Et y a un autre passage que j'adore aussi, c'est sur Blanche-Neige, donc le Blanche-Neige de Disney. Donc, c'est un tout petit extrait parce qu'en fait, le truc prend 3 ou 4 pages. Donc, déjà, la Blanche-Neige, avec sa peau aussi blanche qu'un pet de laitier et sa voix aussi molle que le vieux chat castré de ma grand-mère, j'ai envie de la pendre, lui foutre 2 tartes et lui faire rosir ses joues. Même les animaux, t'as envie de prendre un fusil et de les descendre. Voilà, tu vois, c'est drôle.
Oui, bah moi, dès qu'on bute des animaux.
Et je vous épargne le passage où il est question de la voix de Blanche-Neige et des couilles de Demis Roussos. Vous voyez pas le rapport, mais le personnage de Phyllis, si elle le voit. Voilà. Par contre, j'ai pas du tout aimé, il y a un passage où elles font. Enfin, un des personnages organise une convention sur Vampire Diaries. Donc, c'est une série que je regarde pas. Donc c'est pas pour ça que j'ai pas aimé. Mais c'est vraiment le seul truc que j'ai pas aimé. Je sais pas, c'était genre ils prenaient les acteurs et ils avaient soi-disant une aventure un peu chelou avec certains des acteurs. Et du coup, ça... comment dire ? Jusqu'à présent, en fait, on était dans le truc, genre, ah ouais, c'est des filles qui peuvent exister dans la vraie vie et tout. Et là, le fait d'entrer dans un truc complètement loufoque, avec des acteurs d'une série...
Mais ça sort un peu du truc.
Ça sort du truc, et moi, j'ai trouvé que ça dénotait avec le reste, en fait. Après, c'était drôle, mais je sais pas, ça m'a un peu dérangé avec le reste, en fait. Voilà, mais c'est vraiment le seul truc que j'ai pas aimé. Je pardonne même à Jaja d'apprécier cette saloperie de 50 nuances degrés. Non, personne n'est parfait. Et voilà. Donc c'est un livre vraiment à se pisser dessus tellement on rit.
C'est
voilà.
Bien.
Voilà, c'est bien. De la chick lit, comme on dit, là, de la littérature pour gonzesses, mais avec un peu de cul. Un peu d'amour. Même
c'est donc
si...
de la beach lit.
Même si... Oui, bah oui, tout à fait. Même si elles osent pas se l'avouer. Beaucoup d'humour et une belle amitié, en fait. Et c'est ça qui m'a plu, en fait. C'est cette histoire d'amitié entre des filles qui, au premier abord, n'ont rien à voir ensemble, en fait. Et qui, dans cette colocation, se retrouvent toutes un peu...
Comme dans l'auberge espagnole.
Ouais, mais j'ai pas aimé l'auberge espagnole, moi... Voilà, donc c'est sorti chez Edibitch, donc le livre papier est à 19€ et il existe en version e-book qui est à 5€ je crois, 5€ ou 5,99€ et donc ça se trouve c'est chez Edibitch et en fait quand vous achetez la version papier, ce que je trouve bien, c'est qu'en plus vous avez la version
e-book
et je trouve ça très sympa comme initiative en fait.
Et c'est enfin une vraie initiative pour le livre numérique. Et pas le côté, je vous vends la version numérique au même prix que le papier, si ce n'est plus cher, alors qu'il y a 15 fois moins de frais dessus.
Voilà. Oui, parce qu'au final, les e-books, ils sont à des tarifs tout à fait, je trouve, raisonnables.
C'est comme
en fait.
Les Disney, en fait. C'est-à-dire que quand tu achètes le Blu-ray, tu files le DVD avec, pour ceux qui n'ont pas de lecteur Blu-ray. Ou si tu veux le mettre dans la voiture. Parce que tu n'as pas de lecteur Blu-ray dans la voiture.
Et donc, en plus, donc, si vous aimez Bora Bora Beaches, en fait, il y a gratos, il y a un e-book qui s'appelle 4B. Donc 4B, c'est le nom du voisin. Et on a une petite scénette vue du point de vue du voisin aussi.
Un bonus,
parce qu'ils sont comme ça chez Edibitch. Et donc récemment, il y a aussi God Save the Pin qui est sorti. Donc, il y a une petite nouvelle qui est un spin-off de Bora Bora Beaches, un peu. Et en fait, donc là, on est sur un peu la jeunesse des personnages, en fait. Et donc, dans God Save the Pin, c'est la jeunesse du personnage de Phyllis, qui est pas un de mes personnages préférés. Mais j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir ce point de vue avant...
Un univers étendu.
Voilà. Et j'espère qu'il y aura aussi des spin-offs comme ça pour les autres personnages. Ouais. Pour les trois autres, parce qu'elles sont quatre, en fait.
Ah, je croyais qu'elles étaient trois.
Non, elles
D'accord.
sont quatre. Oui, attends, tu me mets le doute, là. non, elles sont quatre.
De
fouteurs
de merde.
Non, elles sont bien quatre. Et voilà. Et pareil, donc cette petite nouvelle, enfin, elle n'est pas si petite que ça, hein, je crois qu'il y a quand
oui,
même...
Oui, elle est moins grosse que le gros bouquin.
Ah bah oui,
oui.
Oui, c'est une nouvelle. Mais bon, elle est à 99 cents ou quoi.
Oui, donc pas cher.
Oui, voilà. Et ouais, en fait, jusqu'à présent, oui, parce qu'en fait, je suis blog partenaire d'Edibitch. Mais bon, ça m'empêche pas d'avoir un avis...
Impartial.
D'ailleurs, c'est ce qu'elles veulent, en fait. Donc, j'ai lu tout ce qu'ils avaient publié pour le moment. Et c'est vraiment pas mal, en fait, ce qu'ils publient. On a eu Sexino, donc qui est l'histoire d'une nana pas trop bien dans sa peau, qui va... qui va tomber amoureuse, enfin qui va vivre un truc. J'essaie de pas trop.
Oui, je vois ça.
Mais j'ai, parce que
c'est donc l'histoire d'une fille qui va vivre un truc.
Ouais.
Et bien
mais...
Lise, car il va lui arriver un truc.
Non, mais c'est qu'en fait, elle est pas bien dans sa peau, et pour elle, du coup.
C'est pas facile.
Oui, voilà, c'est pas facile parce qu'elle a vécu une histoire qui était pas top, et du coup, elle fait plus confiance aux garçons et tout, machin, gna, tu vois.
Oui, oui, je vois. Non, on enfonce des portes ouvertes depuis tout à l'heure, je vois. Hein.
Non, mais elle était pas mal.
Les généralités.
Et j'ai lu aussi Rose. Donc de Fleur Anna, donc qui est dont j'ai déjà lu Feeling Good. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé ou
je
pas.
Je ne sais pas, je ne sais plus.
Je sais, j'en avais.
Allez voir les autres podcasts, écoutez-les tous et vous verrez si on a déjà parlé de Feeling Good.
Ouais, voilà. Comme ça pour vous expliquer, Feeling Good, c'est un peu ouais, il y a c'est des nouvelles érotiques en fait. Donc, qui au final ont été regroupés dans un intégral, donc ça fait un gros roman. Et c'est vraiment pas mal parce que contrairement à Fifty Shades of Grey, on se reconnaît un peu dans les personnages et enfin on peut se reconnaître. Mais pas voilà. C'est plus réaliste et c'est super drôle. Enfin moi j'adore sa façon d'écrire. Et en fait là dans Rose, c'est une espèce d'enquête dans le vieux Paris, avec un peu fantastique et tout, et c'est pas mal aussi. Donc il publie vraiment des trucs vachement différents en fait, tu vois.
Oui, il se cantonne pas à un seul
style.
Voilà.
Et du coup, enfin, je trouve ça très intéressant.
Tu n'as pas bien vu, tu n'avais pas parlé de Feeling Good.
Voilà.
Nous dit la recherche sur le site du blog.
Rien
sur le site
trouvé.
Du blog, sur le blog du podcast.
Mais j'en parlerai peut-être un jour parce que j'avais bien aimé.
Tu peux.
Voilà.
Et ben voilà, donc plein de livres à lire, mais surtout en priorité, Bora Bora's Beach.
Beaches.
Beaches.
Parce qu'elles sont plusieurs, elles sont
quatre. Elles sont quatre doigts de la main, ou pas. Voilà. Et ben maintenant, on va passer à la suite. Et alors, je vais mettre ça en interlude, je vais parler de voitures qui vont vite.
Ouais.
Tu viens de redécouvrir le jingle interlude, c'est ça?
Mais non, mais on va parler de voitures qui ont vite.
C'est jingle interlude, hein, j'y peux rien.
On va parler d'un sujet très sérieux. Et hop, générique de cirque.
C'est l'interlude. Voilà. Alors, je vais vous parler de Formula E. Qu'est-ce que la Formula E? C'est comme la Formule 1, sauf qu'il n'y a pas de moteur. Alors, vous me dites, est-ce une formule de caisse à savon? Eh bien non, parce que, en fait, si, il y a un moteur, mais c'est un moteur électrique. E comme électrique.
Ah, mais donc
voilà.
Il y a un moteur quand même.
Oui, oui, c'est pour ça que je dis. Mais voilà, mais il n'y a pas de moteur à combustion, c'est un moteur électrique.
Ouais.
Donc, c'est assez sympa parce que c'est un peu plus écologique, parce qu'en ce moment, il y a plus de gens qui disent, oui, vous êtes gentil. Alors, même s'ils réduisent les cylindres et tout, et que la Formule 1 commence à ne plus ressembler à rien, surtout avec des V6 cette année, mais voilà.
Bah, c'est surtout que ça passe sur Canal, donc on ne voit plus.
Non, puis ils ont fait une nouvelle réglementation, plus ça va, moins ça ressemble à quelque chose. Du coup, maintenant, c'est des V6, hein, c'est à peu près les mêmes moteurs que vous avez dans vos voitures. Bon, je troll un petit peu, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais bon. Et du coup, les gens disent quand même encore, ouais, ça consomme et tout, voilà, ça bouffe 15 litres 100, même si c'est plus le cas, ça c'était dans les années 80, mais on s'en fout. La Formule 1, c'est pas bien et tout, environnement, écologie, crise, tout ça. Donc, il y a, un peu par hasard, là, il y a quelques semaines, je suis tombé sur la Formule E, en fait, qui est, bien sûr, brandée, autorisée, tout ça, par la FIA, qui est une voiture électrique, donc il y a une petite tête de Formule 1, toi qui vois une image, hein, ça ressemble quand même fortement à une Formule 1, sauf que ça a un moteur électrique.
Ça a l'air plus petit par contre.
Voilà, non.
Non.
Non, contrairement, ça me paraît un petit peu plus large, mais non, c'est que la photo est de 3 quarts là. Et qui marche à l'électricité. Alors, je vais commencer en gros par la présentation générale. Qu'est-ce que c'est? Ben déjà pour vous dire, je vais commencer par le calendrier pour vous dire que ne paniquez pas, ça n'a pas encore commencé, ça va commencer qu'en septembre 2004. Non, pas en septembre, en juin, je suis en train de dire des bêtises. Alors attendez, hop, j'avais mes petits onglets. Je crois que oui, ça commence aussi, c'est ça, en septembre 2014, en fait, pour la première saison, s'achever en juin 2015. Donc, il y a, je crois, 10 courses, il me semble. Alors, attendez, pop, j'arrive pas à dire de bêtises. Ouais, c'est ça, il y a 10 courses. Et ce qui est bien, c'est que ces 10 circuits, donc, ne sont pas forcément des circuits, c'est-à-dire des trucs amené à rester, voilà, des trucs pérennisés, on va dire ça comme ça. Parce que, à l'image des circuits que je préfère, moi, en Formule 1, qui sont, en gros, Valenciennes et Monte Carlo. Valenciennes. Circuit du Nord.
Le circuit de Valenciennes.
Valence et Monaco, ce sont que des circuits en ville. La Formule E, la Formule E, on va dire, hein, ce ne sont que des circuits en ville. Hein. On commence par la Chine avec Beijing, c'est-à-dire à peu près
mais
Pékin.
Oui. Je trouve ça bien aussi dans l'optique écologie, économie, machin, tu sais, de ne pas construire.
Oui, aussi des trucs exprès. Oui, ouais. Mais ils auraient pu prendre des circuits de F1, machin, mais là non, c'est que en ville. Moi, j'aime bien les circuits. Mm. Voilà, c'est assez sympa. Je déplore qu'il n'y ait pas de circuit en France encore, mais on pourra se consoler en disant qu'il y a Monaco, voilà, qui n'est pas tout à fait en France.
Oui, non, mais...
Alors, ça commence par, donc, je l'ai dit, Pékin en Chine, en plus...
Non,
après...
Beijing.
Oui, ben, Beijing, c'est Pékin.
Ouais, ben non, c'est pas écrit Pékin.
Entre eux, on a la Malaisie, on a l'Uruguay, un nouveau pays, pour ceux qui suivent la F1. Pour l'instant, il n'y a pas de course en Uruguay. On a l'Argentine, les USA avec Miami, les USA deux fois avec Los Angeles, Monaco, Berlin en Allemagne et Londres. Vous voyez qu'il y a pas mal de capitales, en fait, entre Pékin, Berlin, Londres, Monaco, qui est la capitale de Monaco. Voilà, bon, pour les États-Unis, je pense que si on avait fait une course à Washington, ça aurait été peut-être un petit peu moins vendeur. Donc
Et il y a une date qui n'est pas donnée.
Ouais, non, mais en fait, c'est pas là. Je crois qu'il n'y a pas de date, en fait, là. Il y a 10 dates. Ah oui, non, il y a une date qui n'est pas définie. Mmh. Tu as raison.
Ce serait peut-être en France.
Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal encore de petites zones d'ombre sur le truc, mais que je vous détaillerai plus tard, mais ça a l'air bien sympa. Donc, d'une part, parce que c'est électrique, ça a un petit peu de renouveau. D'autre part, parce que c'est des circuits urbains, voilà. Et en plus, vous pouvez vous dire, oui, il y a pas mal de dates aux USA, ou en tout cas sur le continent américain, ça va être fortement américain. Que nenni, malheureux, parce que autant on pouvait dire, alors longtemps on a dit que la Formule 1, même si c'est Bernie Ecclestone essaye de mondialiser tout ça, c'était un petit peu européen, que les trois quarts des circuits étaient en Europe et tout, même si de moins en moins, mais bon. Et là, vous dites, ouais, il y en a surtout qui sont, on voit en plus la petite carte, la répartition, il y a un petit peu en Asie, surtout en Amérique, pas trop en Europe. Mais la France est quand même grandement présente. Bah, au final, il y en a trois en Europe.
Bah oui.
Deux en achat et quatre aux États-Unis. Enfin, donc, en fait.
Oui, enfin, États-Unis, non. Parce que Buenos Aires.
Ouais, pas États-Unis, mais je veux dire, continent américain, quoi.
Oui, mais bon, voilà, quoi. Au final, en Europe, on a.
Bah, on en a trois.
On a plus qu'aux États-Unis, au final.
Oui, enfin, en Amérique, il y en a quatre, quoi.
Oui.
Mais il y a quand même pas mal de trucs français.
Si tu veux jouer au truc des continents...
Oh, mais tu vas arrêter Non, mais oh. Oui, bah ça, c'est l'Asie, quand on apprend les continents, madame.
Oui, mais bon.
Donc,
on s'en tire
concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est là, vous allez voir qu'il y a une forte imprégnation, notamment de la France, dedans. Dans la Formule AE, en fait, la Formule AE, c'est un peu, d'après ce que j'en ai compris, parce que tout le site est en anglais, mais bon, avec mon niveau d'anglais, c'est qu'en fait, c'est une espèce de formule un peu comme la Formule Renault et tout. C'est-à-dire qu'à première vue, toutes les voitures seraient à peu près les mêmes, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que ça serait un châssis, en fait, qui... Hop, je l'ai là. Un châssis qui est fait en partenariat par Spark, qui est une boîte française d'un ancien de Renault qui s'appelle Frédéric Vasseur. Voilà. Je crois que c'est un ancien de Renault, en tout cas. Et par Renault, justement, donc, qui se sont un petit peu associés pour construire le châssis de la voiture. Au niveau français, Renault fournit aussi, alors attendez que je retrouve la petite ligne, tout ce qui est en fait l'intégration, ils font l'intégration parce qu'il y a des pièces, je devrais vous le dire avant, en fait, des pièces qui viennent de différents constructeurs. Et une fois que toutes ces pièces sont données, ben Renault se charge de les assembler dans le châssis qui a été un petit peu fait pour eux, par eux, pardon, et par Spark. C'est-à-dire que le système électronique, c'est McLaren qui le fait, McLaren qu'on ne présente plus dans le domaine de la F1. Williams aussi qu'on ne présente plus dans la F1, eux, ils se chargent en fait de fournir la batterie qui fournit l'équivalent de 270 chevaux. Alors 270 chevaux, vous allez dire, enfin c'est des chevaux vapeur, je crois, c'est des BHP, des trucs américains. Jamais trop compris comment, enfin l'équivalence, mais c'est des voitures qui vont quand même à peu près aussi vite que des F1, parce que je pense qu'elles sont plus légères de base. Et ils fournissent alors le boîte séquentielle est fourni par Yuland, j'avoue que je ne connais pas, peut-être que des spécialistes connaissent, et surtout les pneus qui sont des pneus 18 pouces sont fournis par Michelin. Michelin qui s'est retiré de la fin en disant ouais, c'est tout truqué, tous des connards et tout machin, et puis il y a des règles de merde, maintenant on se bat. Du coup, ils se font une deuxième jeunesse dans la monoplace, enfin, même s'ils étaient déjà présents dans notre truc, en rejoignant, et eh bien en étant le seul. Le seul partenaire de pneus. Ouais, en fait, le seul fournisseur de pneus. Ce qui est un petit peu étrange, vu qu'il s'était barré de la fin en disant, oh, il n'y a pas de compétition et tout, du moment qu'il n'y aura qu'un seul fournisseur en F1, on ne reviendra pas là. Et ils viennent en Formule 1 en étant le seul fournisseur de pneus. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais enfin, c'est quand même sympa que ce soit des. Que ce soit des pneus. Alors, à première vue, ce qui est sympa, c'est que les pneus, il y aurait qu'une seule sorte de pneus à la fois pour qui serait à la fois, je dirais, polyvalent pour le sol, le sec et le mouillé. Il y aurait plus qu'un truc de pneus comme en F1. Voilà. Il y a, pour l'instant, pour ce qu'on en sait, parce que je vous dis, il y a pas mal de zones d'ombre, en fait, il y aurait 10 équipes habilitées avec 2 pilotes chacun, 2 pilotes ayant 2 voitures pour l'année. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 4 voitures par écurie. Donc, il y aurait 10 écuries, 4 voitures par écurie, mais seulement 2 pilotes. Et 2 pilotes qui seraient pris dans un pool d'après ce que j'ai compris, qu'ils appellent le Driver Club, en fait, un pool de pilotes qui ont dit, moi, je veux en faire partie et je passe la licence pour la Formule 1. Alors, si je vous donne des noms, vous allez voir qu'il y a pas mal de, enfin, on va pas dire des recalés de la F1, mais un petit peu des seconds couteaux de la F1. Entre autres, il y a Jérôme D'Ambrosio qui a fait un petit peu de F1. Marco Andretti, lui, qui est surtout connu aux F1, je crois qu'il a fait du. Comment il s'appelle ? Pas de la NASCAR, mais du. Le truc que Bourdais avait fait. D'ailleurs, il y a Sébastien Bourdais. Il y a Sébastien Buemi qui a fait aussi de la F1, qui n'en fait plus. Chandoc aussi, je crois qu'il avait fait de la F1. Il y aurait. Lucas Di Grassi qui avait fait de la F1. Nick Hedfeld qui ne fait plus de F1 aussi. Kartik Eyan qui a fait de la F1 qui n'en fait plus.
Ah, il y a une fille.
Oui, il y a une fille, ça aussi, c'est intéressant. C'est que ça serait, pour une fois, il y aurait des filles. Il y a une américaine, je crois, ah non, une anglaise, Catherine Legge, ou Leg, je sais pas comment ça se dit. Dans les anciens de la F1, il y a aussi Liu Zi, il y a Franck Montagny, français, un ancien de la F1. Stéphane Sarrazin qui, lui, il n'a pas fait de la F1, mais il avait fait de la monoplace, je crois. Voilà, Bruno Senna, le neveu d'Ayrton Senna, qui a fait de la F1 jusqu'à la saison passée, je crois, parce que j'ai arrêté de suivre à partir de la saison passée quand c'était sur Canal, mais qui au moins il y a 2 ans y était encore, qui a fait de la F1, Adrien Tambay qui faisait de la monoplace, mais pas en F1, et Arnaud Trulli qui a longtemps fait de la F1 qui n'en fait plus. Donc vous voyez, ça faisait un petit peu, en tout, j'ai compté une 30aine de pilotes donc qui seraient habilités à conduire ces Formule 1, en tout cas qui seraient dans le Driver's Club, qu'ils appellent en fait le pool de pilotes. Et chaque équipe prendrait 2 pilotes parmi ceux-là, sachant que la seule équipe pour l'instant qui a officiellement sélectionné ses pilotes, c'est, je ne le retrouve plus, mais je vais les remettre là. En fait, c'est l'équipe Audi. Alors voilà, c'est bien qu'il y ait Audi dedans. Au niveau des équipes, je vais vous en parler. Le problème, c'est que si c'est des formules un peu avec tout le monde a le même châssis, tout le monde a le même moteur et tout, je vois pas trop ce qu'ils peuvent apporter en plus. Mais bon, moi j'aime bien Audi, donc je suis content qu'ils soient là. Et c'est la seule équipe qui a dit, ben nous, nos pilotes, ce sera ceux-là. Ce sera Luca Di Grassi et Daniel Abt, qui est un Belge, je crois. Voilà, qui a déjà fait de la monoplace et tout.
Mais en oui. fait, du coup, t'as ce driver club et les écuries doivent taper dedans.
D'après ce que j'ai compris, ouais, ce serait ça en fait.
C'est comme, tu sais.
Mais après, ils les ont pour la saison, quoi. Mais
ouais, mais bon, tu vois, c'est ouais, premier arrivé, premier servi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, ça me fait penser au truc à l'école, tu sais, genre, ouais, allez, on va faire des équipes.
Ouais, enfin, et je puis, trouve que c'est plus.
Les gros, ils prennent tout de suite les meilleurs, et puis après, t'as le rabais, quoi.
Bah, c'est un petit peu ce qui se passe où. Enfin, si c'est un petit peu ce que tu penses qui est pas faux, c'est un petit peu ce qui se passe, par exemple, dans le basket américain où t'as les drafts, où t'as un pool de machins que tu peux prendre, et suivant ta position, tu peux drafter soit en premier choix ou en deuxième choix, ou.
Parce que est-ce qu'une écurie peut pas justement former ses.
Ah bah après je sais pas, mais moi pour ce que j'en vois, c'est première vue, sinon après ça peut peut-être amener à être évolué. Mais c'est deux seuls pinoles sûrs, sachant qu'au niveau des écuries, comme j'ai dit, il y en a 10 qui sont. Ah hop, elles sont où les équipes Il y a Dresden Racing que je ne connais pas, China Racing qui m'a l'air d'être un petit peu sponsorisé par la Chine. Andretti Autosport, je pense que c'est un rapport avec Mario Andretti qui longtemps lui a couru aux États-Unis aussi. Dragon Racing, donc E. Adams, on ne sait pas ce que c'est. Super Aguri Formule 1. Super Aguri, je crois qu'ils font des trucs au niveau du, au niveau asiatique aussi. Il y a Mahindra Racing, ça m'a l'air un petit peu indien aussi. Virgin Racing, hein, Virgin, dès qu'il y a du sport, ils se mettent un peu dedans, j'ai l'impression. Et Venturi Grand Prix, bien sûr. Venturi, là, une grande boîte de voitures de course. Voilà, donc ce sont les 10 équipes, sachant que pour l'instant, eh bien, comme je disais, les deux seuls qui se sont. Ah oui, il y a les petits drapeaux en fait. Alors, non, en fait, Drayton Racing, c'est une écurie anglaise. China Racing, c'est une écurie chinoise, ça n'étonnera personne. Andretti, je l'ai dit, c'est américain, pas de souci. Dragon Racing, c'est américain en fait aussi. E. Adams, en fait, Formula Team, c'est une équipe française à première vue. Super Aguri, comme je le pensais, c'est japonais. AABD, bah, c'est allemand. Hein, c'est Audi Sport AABT, du nom de leur pilote aussi. Bizarrement, c'est peut-être pour ça qu'ils se retrouvent pilote, le gars. Non, voilà. Mahindra, comme je l'avais pensé, c'est indien. Bon, bah, Virgin, c'est anglais. Et Venturi, par contre, c'est. Oui, les voitures de sport, ça a l'air d'être monégasque. Peut-être pour ça qu'il y a un circuit qui sort du circuit de Monaco aussi. Enfin bon. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus au niveau des règles, c'est à peu près les mêmes règles qu'en F1, sachant que, par exemple, il n'y a pas de sabot des moteurs électriques, il n'y a pas de ravitaillement. C'est-à-dire que tu peux pas ravitailler pendant la course, recharger ta batterie. Voilà, c'est-à-dire que tu le fais avant, après, mais pas au milieu de la course. Et que au niveau du rechargement de la batterie, en fait, c'est le même, encore une fois, le même équipement pour tous. C'est-à-dire que c'est un truc fourni par la FIA qui correspond aux normes de la F1 et hop, vous chargez ça pour recharger les batteries de votre véhicule et puis voilà, c'est tout. Donc ça a l'air assez sympa à suivre. Le seul petit bémol, c'est que dans les chaînes télé partenaires pour l'instant, il n'y a que des trucs étrangers et il n'y a pas de chaîne en France. Par exemple, il y a... Alors attendez, je sais pas où j'ai mis... Poupoup. Je sais pas où j'avais vu les... Hop, télévision, voilà, crac crac. Il y a Fox Sports qui le fait. Il y a une chaîne anglaise, ITV4. Une chaîne japonaise, TVHI. Et crac crac, machin. Un truc, une chaîne câblée à première vue, Aurora Media Worldwide. Mais pas de chaîne en France. Et pas trop en Europe, si, en Angleterre, mais c'est tout. Donc j'ai peur qu'on ne
voit pas ça. Il n'y a pas trop de chaînes déjà, de base.
Oui, mais enfin, c'est un truc déjà qui commence pas hein, et qui, sur leur première saison, ils partent vraiment quasiment de zéro. Mais je trouve que c'est prometteur, ça change un peu. Le seul petit bémol aussi, bah, c'est que c'est un moteur électrique et que bah, le bruit du moteur n'a pas la magie d'un vrai moteur de F1. Même si maintenant, ouais, le bruit du moteur de F1, c'est plus que c'était. Mais voilà. En tout cas, c'est prometteur. J'aime bien l'idée, bah, justement, que ce soit assez ouvert, qu'il y ait des femmes qui puissent éventuellement piloter les trucs. Qu'ils aient un moteur électrique sans pour autant apparemment renier sur les performances et que ce soit que des circuits
en ville.
Que des circuits en ville, moi j'aime bien. Voilà. Et ben on va passer à la suite.
Ouais, ben je sais pas.
On va parler un petit peu rapidement de mon appareil photo et tout, parce que parler de photo, même si le déclencheur le faisait très bien, mais parler de photo en audio, c'est pas toujours facile. Hop, allez, hop, je reviens sur le programme, je mets une pause et hop, petit jingle. Le test est toujours l'ancien, on verra bien si on change ou pas.
En même temps, tu dis, ouais, c'est encore l'ancien, mais tu parles, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré qu'à mon avis, les gens ils se souviennent même plus des
c'est
jingles.
C'est pas faux, je devrais me taire. Non, mais on avait dit que pour la nouvelle formule, on changerait les jingles et tout. Et on en a changé deux. Enfin, j'en ai changé deux. Et comme je suis mauvais pour les machins, ça aide pas à les changer non plus. Donc, on va parler un petit peu rapidement, car on a déjà à plus d'une heure d'enregistrement de mon nouvel appareil photo. Qu'est-ce que c'est? Que c'est un Fujifilm X100. Hein, je mettrai le lien dans le post. Je dois avoir fait un article là-dessus, sur le comment du pourquoi je voulais cet appareil-là sur mon blog. En fait, pourquoi? C'est que je voulais un appareil qui, en gros, prenne autant des photos au moins aussi bonnes que mon D90 que j'avais, que j'ai toujours en fait. Non, je me sers plus. Mais c'est-à-dire au moins un capteur APS-C, mais dans un format plus petit pour pouvoir l'emmener partout et pas forcément faire que des photos à l'iPhone à chaque fois qui sont bien mais pas top. Donc voilà. Et j'hésitais entre plusieurs concurrents et je me suis finalement retourné vers le plus cher parce que pas forcément parce que plus cher c'est mieux. Mais parce qu'il avait en gros toutes les qualités que je recherchais, c'est-à-dire déjà il avait une bonne tête d'appareil rétro. Je sais que toi aussi t'aimes bien.
Ouais, il est très joli.
Voilà, parce qu'il avait, eh ben, il a le nouveau capteur Sony, Fuji, parce que c'est un Fujifilm X100S, qui est en fait une version améliorée du X100 sorti il y a un ou deux ans, mais il a le fameux capteur X-Trans-CMOS 2, hop, voilà, couplé au nouveau processeur qui est le... alors je sais plus comment il s'appelle, mais qui est en version 2 aussi dessus, le X, ouais c'est ça, EXR2, voilà, qui fait que le traitement d'image en fait est un petit peu excellent, qu'il n'y a quasiment pas de bruit jusqu'à 25600 ISO, ça vous dit la qualité du truc. Donc c'est un capteur APS-C en gros, donc le même taille de capteur que sur les Nikon au format DX, c'est-à-dire en gros 3000, 3100, 5100 jusqu'au 7000 je crois. Voilà, la même taille de capteur, mais avec des performances en gros quasiment dignes d'un full frame, c'est-à-dire d'un plein format, dans un boîtier qui est pas tout petit, parce qu'il est assez gros, et bien sûr il est plus gros que le nouveau Panasonic qui est le je ne sais plus, le GX1, oui c'est ça je crois, le GX1, mais qui est quand même assez compact. Alors je ne sais pas s'il y en a les dimensions.
Comparé à un réflexe, il est compact quoi.
Oui, en gros, il a la même taille qu'un bon vieux appareil compact que vous aviez avant, à l'époque de la pellicule. On va dire
argentique
ça.
Quoi.
Oui. Voilà.
Et d'ailleurs, il a une tête un peu rétro qui rappelle les argentiques. Quoi.
Dans les points négatifs, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, il n'a pas d'objectif interchangeable, il n'a que 128 mm, mais qui a l'avantage pour lui d'être excellent comme objectif et qui se marie parfaitement avec le capteur qu'il est bien aussi. Moi, ça me gêne pas trop dans le sens où il est un peu plus grand angle que le 50 que j'avais avant sur le D90, et sachant que sur le D90, je n'avais plus que un 50, un 35, qui, avec le format, avec la multiplication par un 5, faisait un 50 mm full frame. Mais c'est un peu plus grand angle, mais j'avais l'habitude de faire déjà avec un seul objectif, donc ça me change pas trop. Ce qui est bien, c'est que ça, on peut aussi faire de la macro avec. Voilà, il y a un mode macro qui est assez intuitif, et en plus, il a ce qui est bien. Le X100, c'est qu'il a un double mode de visée, entre autres, c'est-à-dire qu'on peut regarder sur l'écran, mais on peut aussi regarder, il y a un viseur optique, qui est à la fois optique et à la fois, comment on dit pas optique, il y a à la fois numérique, c'est-à-dire qu'on peut prendre en visée directe avec le petit cadre du cadrage, juste en surimpression, qui bouge, pour nous indiquer le cadrage qu'on a, mais on a une vue à travers, hein, comme sur les anciens appareils photo, pas réflexe, mais vraiment à travers l'œilleton, je dirais. Voilà. Ou sinon, le fameux œilleton peut aussi afficher ce qu'on verrait, par exemple, sur l'écran qui est au dos de l'appareil, donc d'où le côté numérique. Donc on a la petite molette devant pour switcher. Alors suivant les modes, ça switche pas, mais c'est normal, c'est-à-dire que par exemple, si on prend le mode noir et blanc, ça nous met d'office le viseur numérique, parce que faire du noir et blanc dans une vue directe, forcément, ça ne va pas te transformer le truc en noir et blanc. Donc, si tu veux voir à quoi ta photo va ressembler, ça te met direct l'affichage en noir et blanc.
Oui.
Forcément, c'est logique. Voilà. Et il y a aussi deux petites aides à la visée, à la mise au point en manuel qui sont sympas. Entre autres, il y a bien d'autres petites qualités, mais je vous laisserai voir soit sur les sites spécialisés, soit sur les articles que j'ai fait sur mon blog, qui sont le Digital Split Image ou l'autre, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est bien aussi, c'est-à-dire qu'en gros, le Digital Split Image, c'est comme ce que vous aviez sur les anciennes argentiques, encore une fois, réflexe, où en fait, l'image, si elle n'est pas nette, si elle n'est pas mise au point, elle est décalée, et du coup, il faut essayer de remettre l'image nette. En fait, c'est comme si elle était cisaillée, en fait, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire qu'une ligne qui est normalement droite sera coupée, en fait, il faudra essayer de la remettre droite, et quand elle sera à nouveau droite, sans coupure et sans cassure, en fait, c'est là que la mise au point sera faite.
D'accord.
Voilà, où il y a un système un petit peu de surbrillance, c'est-à-dire que tout ce qui est en surbrillance sur votre image, ce sera la partie nette de votre image. Voilà. Sachant que voilà, les contrôles sont que l'appareil est solide, voilà, une bonne tête, il fait des photos qui vont bien. Alors pour l'instant, je ne pense que je n'exploite pas à son maximum, étant donné que j'ai un appareil de bourgeois et je ne suis pas un super photographe, mais ça permet pour moi, ça remplit son contrat, c'est-à-dire que normalement, je peux très bien me la jouer fignasse, c'est-à-dire mettre en tout automatique autant l'ouverture que la vitesse, hein, qui peuvent se régler indépendamment, bien sûr, l'une de l'autre. et avoir une qualité de photo optimale, comme si j'avais shooté avec un réflexe alors que j'ai juste shooté avec un appareil petit.
Oui, mais c'est pas non plus un compact.
Bah, il a à peu près la taille d'un compact, mais il n'est pas compact.
Oui,
au compact.
Mais il y a pas la, il y a plus dedans.
Ah oui, 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 oui.
Et
oui.
On a plus dans le ventre qu'un compact, quoi.
Ah oui, oui, oui.
Voilà. Genre moi, oui, avec oui. mon compact, je fais pas des photos de cette qualité, quoi.
Oui. D'ailleurs, ils appellent ça. Ça fait partie à peu près de la gamme des compacts experts, justement. Ils appellent ça.
Ben voilà.
En gros, pour tailler un petit peu l'âge, alors je vais me faire planter des couteaux dans l'eau, mais en fait, c'est un réflexe qu'ils ont rentré dans un format de compact, pour faire simple. Donc pas réflexe, il n'y a pas la pièce des réflexes, mais je dirais les performances et l'électronique et tous les menus et les choix qu'on peut avoir dans un réflexe, pof.
Et la qualité de l'image. Compact.
Oui. Voilà, voilà, voilà. Donc il est bien. Alors le problème, c'est qu'il est cher, à peu près entre 900 et 1100 euros suivant les sites. Voilà. Mais bon, une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez acheté, vous n'avez pas à vous ruiner à mettre 3-4 000 euros dans des objectifs ou plus ou moins, mais vu que l'objectif se change pas, une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Voilà. Le problème, c'est que si vous voulez le protéger, alors moi j'ai acheté une protection en verre qui se colle dessus, à vil prix, qui marche très bien. Mais si vous voulez vraiment la petite housse en cuir qui va bien et tout, je crois que c'est 200-300 euros, c'est un petit peu elle coûte un petit peu. La peau des fesses aussi.
Ouais, mais peut-être mais après, parce que c'est du vrai cuir, quoi.
Ah bah oui,
ouais,
c'est du vrai cuir. C'est du produit de luxe. Ah, si, il doit y avoir des no-name ou des trucs à moins cher aussi.
Mais en pas cuir.
Ah, aussi, peut-être bien. Mais en tout cas, pas, c'est le truc officiel Fuji, mais ça doit se trouver, ouais. Moi je pense. Aller faire un tour sur eBay ou autre site du même genre.
Non, pas forcément un truc chinois fait à l'arrache.
Ah non, mais j'ai pas forcément chinois,
pas...
mais il y a peut-être d'autres choses. J'avoue que je me suis pas penché sur le truc, mais il y a sûrement, oui. Donc voilà, donc bah, n'hésitez pas, hein, si vous voulez en acheter un, à cliquer sur les liens, voir si vous en avez un, dites pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous ne l'aimez pas, parce que je pense que ça peut très bien ne pas convenir aux gens, et je pense que c'est le genre d'appareil, comme son prédécesseur, le X100, où il y a autant de gens qui l'adorent que de gens qui le détestent, voilà. Mais moi, je l'aime bien. Ça tombe bien.
Oui, ça tombe bien.
Voilà. Donc, sur ce pan news, tu avais dit, on va donc se quitter, hein, après cette 1h10 quasiment écart, le temps qu'on finisse de podcast. On va dire au revoir aux gens. On va dire qu'ils peuvent nous retrouver, toi, sur ton blog, qui s'appelle...
Croquette.fr.
Oui, ça, c'est son nom de domaine, qui s'appelle Life is a King, like a Kinder Surprise.
Ouais.
Voilà. Moi, sur mon blog, Angelus Yodasson, le blog... Et
tu t'es pas fait chier, toi.
Voilà, à l'adresse angelusyodasson.com, tout attaché, sauf le .com, hein, vous mettez un point. Non, parce qu'il y a des sites en .0, tu vois, où ils écrivent, puis INT0.
Ah ouais.
Ouais. Donc voilà. Mais... Si, j'ai vu.
Oui,
voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @croquette ou @angelus_yodasson. Vous pouvez. Pas ailleurs. Vous pouvez écouter ce podcast, voilà.
Si, on est sur Facebook. Attends, on a une
page. Ah oui, on a une page Facebook / marié deux iPhones tout attaché avec le 2 en forme de 2.
Le 2 en forme de 2.
Oui, bah, pas écrit, quoi. Pas écrit. On doit avoir une page Google Plus aussi, si vous êtes vraiment des acharnés. Voilà, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles.
Il y a encore des gens sur Google Plus ?
Oui, quelques-uns.
Ah ouais.
Voilà, sur iTunes, mettez 5 étoiles. Sinon, si vous aimez les podcasts, intéressez-vous à Podchose et Podradio qui diffusent des podcasts, qui en produisent même certains. Et aussi à notre ami de Podcast France, @Lardouf sur Twitter. Voilà, un petit peu de pub pour lui aussi, pour les 3 personnes qui nous écoutent. Si vous aimez les podcasts.
Dont lui.
Dont lui, voilà.
Coucou.
Coucou Larnouf, on t'a fait de la pub, tu noteras. Voilà. Allez, petite jiggle de fin. Et normalement, au mois prochain, si on arrive à tenir les délais qu'on veut. Voilà. Salut.